émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Daniel Heldin et Jean-Jacques Drevon. Tous deux font partie du Centre Documentation Tiers-Monde et ont participé à la campagne alimentaire depuis déjà plusieurs années, puisque c'est depuis plus de 10 ans maintenant que le Centre Documentation Tiers-Monde pratique avec les écoles de la ville et le service des restaurants scolaires une campagne alimentaire. Alors cette campagne, elle a été pilotée au niveau national par le Comité français pour la solidarité internationale, CFSI, et elle a pour but d'informer sur les paradoxes du système alimentaire mondial et l'enjeu de nourrir le monde de demain. Donc, en Languedoc, elle a deux temps forts, un festival de cinéma qui est grand public, et puis cette action qui est menée avec les restaurants scolaires depuis bientôt plus de 10 ans.
Beaucoup plus de 10 ans. Bonjour Madeleine, bonjour tout le monde. Cette action dans les restaurants scolaires pour le Centre de documentation Tiers-Monde est menée depuis plus de 30 ans. Je me souviens que nous avons fait des premières interventions au moment du match de foot qui a eu lieu pour la Coupe du Monde de foot en 98, je crois.
En 92, où on avait célébré la découverte de l'Amérique.
Exactement, les plantes de la découverte. Et quelques années après, quand il y a eu le match de foot pour la Coupe du Monde, on était intéressés avec les restaurants scolaires à ce que mangeaient les joueurs de foot qui venaient de ces équipes du Maroc, du Brésil, du Cameroun. Quelle était leur alimentation? Est-ce que les enfants de ces pays-là et les joueurs de foot et les sportifs se nourrissaient de la même façon que chez nous en France et à Montpellier? Donc on avait déjà fait des interventions dans toujours cet esprit de s'intéresser à ce que les enfants mangent, intéresser les enfants à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils ont dans leur assiette, éveiller leur curiosité à ce qui se passe pour eux, mais qu'est-ce que passe ailleurs aussi dans d'autres pays concernant l'alimentation.
Alors comment procédez-vous donc?
Alors c'est un travail en équipe, un travail où nous sommes de plusieurs acteurs. Il y a 3 associations de Montpellier, La Fibala et Artisans du Monde, qui sont spécialisés dans les animations scolaires. Et puis le Centre de documentation Tiers-Monde, qui est un centre de ressources, une bibliothèque, mais pas seulement, et qui coordonne ce travail avec les deux autres associations et avec les services de la mairie concernés par la restauration scolaire. Ce qui est quelque chose d'assez innovant, assez intéressant, ce travail de coopération entre associations et services d'une mairie. Donc il y a le service de la politique alimentaire de la ville de Montpellier, le service éducation et la cuisine centrale de Montpellier qui mettent en œuvre cette action avec les associations. C'est très intéressant comme coopération parce qu'on voit qu'on travaille sur ce thème de l'alimentation des enfants, ici chez nous et pour nous informer sur ce qui se passe là-bas dans d'autres pays, de façon différente mais avec le même objectif qui est d'intéresser les enfants à ce qu'ils ont dans leur assiette.
Voilà, alors cette association de beaucoup de partenaires est vraiment efficace puisque les familles des enfants qui mangent dans les écoles, ça représente, je crois, dans les 15 000
personnes. Oui, c'est ça. Oui, entre 14 000 et 16 000 enfants qui sont concernés. Alors, j'ai oublié aussi un autre partenaire intéressant, c'est le Conseil municipal des enfants. Et ça, on pourra en parler plus en détail. Chacun dans les restaurants scolaires, conseil municipal des enfants, ce n'est pas le même travail qui est fait pour des raisons simplement d'organisation du temps de présence des enfants. Donc, j'insiste sur le fait qu'on est plusieurs intervenants et que cette coordination qui est assurée par le Centre de documentation Tiers-Monde commence par choisir ensemble tous ces acteurs, les services de la mairie et les associations, de choisir un thème chaque année différent pour conjuguer après le travail autour de quelque chose de concret, comme par exemple un aliment chaque année différent. On a travaillé sur le chocolat, on a travaillé sur l'orange, sur les céréales, et puis dernièrement sur les légumineuses et enfin sur les tubercules.
Alors c'est une proposition qui est faite. Évidemment, tous les animateurs ne vont pas être intéressés. Il va y avoir un choix. Et à ce moment-là, il y a du travail qui se fait en commun.
On commence par informer tous les animateurs de ce qui va se passer cette année. Donc, c'est Samia Sagui de ce service-là, des animations dans le temps périscolaire, qui informe les animateurs de ce qu'on leur propose comme travail. Donc, cette année, c'était sur les racines des tubercules comestibles. Et ensuite, dans un deuxième temps, les animateurs s'inscrivent en disant on a envie de travailler avec les enfants sur ce thème-là. En général, il y a entre 5 et 10 groupes d'enfants qui participent concrètement. On a fait 5 et 10 restaurants scolaires concernés. Heureusement qu'ils ne sont pas tous, parce qu'on ne pourrait pas assurer un travail pédagogique avec tous. Ensuite, et les animateurs sont là pour faire ce travail auprès des enfants. C'est pour nous des acteurs indispensables de ce travail éducatif. Parce que l'objectif, c'est donc de s'adresser à des enfants avec... ce n'est pas l'école, le temps où ils sont à disposition pour faire ce travail. C'est le temps périscolaire entre midi et deux, qui est assez court, entre les deux services auxquels ils participent, les deux services de restauration. Et donc, il faut les sensibiliser sur un temps court, avec du matériel pédagogique adapté. Donc, on réunit les animateurs concernés pour une formation au mois de janvier, en général. Ils sont une dizaine. Et on leur donne des éléments pour qu'ils puissent travailler avec les enfants sur le thème. Bon. Et donc, on prépare un dossier pédagogique. Je vais aller jusqu'au bout du déroulé, et puis on reviendra peut-être sur le temps fort de ce travail qui est la préparation des documents pédagogiques à remettre aux animateurs. Il faut qu'ils sachent comment s'y prendre pour parler, notamment par exemple des tubercules et racines. Donc il y a une formation. On va visiter la cuisine centrale aussi. Cette visite est organisée par Kitty Dupont, qui est la diététicienne de la cuisine centrale. Et pour cette année, il y avait Fabrice Freux aussi, qui était chargé de la... cette visite, qui travaille aussi à la cuisine centrale. Et puis...
conclu par un repas spécial.
D'abord, il y a eu cette visite de la cuisine centrale qui est intéressante, parce que ça montre qu'on s'intéresse à ce que les enfants vont s'intéresser à ce qu'ils trouvent dans leur assiette, sur comment ça a poussé, où a poussé la patate douce ou le manioc. Ils n'ont pas mangé le manioc, mais les pommes de terre qu'ils trouvent dans leur assiette, d'où elles viennent, qui les a plantées, qui les a cultivées, comment elles sont arrivées jusque chez nous, et puis finalement, comment elles sont cuisinées à la cuisine centrale de la ville de Montpellier. C'est toute une longue chaîne, finalement, intéressante. Et donc, ces aliments sont consommés par ceux qui les produisent. Et c'est très important de voir que, par exemple, quand on avait fait le chocolat, que les cultivateurs qui cultivent le cacao ne mangent pas de chocolat. Mais par contre, pour la pomme de terre, on s'est aperçu que beaucoup de communautés dans le monde, beaucoup d'enfants dans le monde mangent des pommes de terre, mais pas du tout présentées de la même façon, pas du tout cuisinées de la même façon. Donc il y a une grande variété d'habitudes culinaires dans le monde. C'est intéressant de voir ça avec les enfants. Donc, il y a cette formation. Ensuite, il y a des ateliers qui se déroulent dans chacune des écoles avec chacun des groupes qui est inscrit, avec les animateurs. Des ateliers où ils font des activités et où ils sont accompagnés sur le plan pédagogique par les deux associations Artisans du Monde et la FIBALA, qui se déplacent dans les écoles et qui animent des temps de découverte des propriétés de ces aliments. Voilà. Donc c'est très vivant pour les enfants, c'est pas quelque chose de scolaire du tout, c'est une découverte ludique et amusante. Donc, mais ils en retiennent, c'est très fort, parce qu'ils en retiennent toujours des choses qu'ils doivent transmettre ensuite lors d'une fête qu'on organise, qui a eu lieu cette année le 9 juin. Et lors de cette fête, ils ont restitué à tout l'ensemble des autres enfants ce qu'ils avaient fait.
Oui, et puis ils sont récompensés par un goûter.
Ils sont récompensés par un goûter.
Et un compteur.
Et un petit livret de recettes. Donc, entre-temps, il y a eu, 2 jours avant la fête, un menu spécial dans les restaurants scolaires de la ville de Montpellier, préparé par la cuisine centrale et par la diététicienne, ayant pour thème cette année les tubercules. Chaque année, c'est sur un thème différent, qui on mange des choses délicieuses, mais en relation avec le thème de l'année.
Alors, nous allons peut-être maintenant écouter un peu de musique. Il s'agit des petits loups du jazz, donc, qui vont nous chanter « Planète ». Alors, je me tourne vers Jean-Jacques Drevaux, qui est chercheur, directeur de recherche, agronome, et qui a participé justement à l'élaboration de ce dossier pédagogique. L'an dernier, c'était sur les tubercules.
Oui, alors du coup, j'ai participé effectivement à cette campagne l'an dernier sur les tubercules. En fait, en souvenir de la campagne antérieure qui était sur les légumineuses, en mentionnant que parmi les plantes à tubercules alimentaires, il existe aussi des légumineuses. Donc, c'était faire l'articulation avec la session précédente sur les légumineuses. J'avais été contacté par le CDTM en tant que spécialiste des légumineuses et de leur interaction avec les microbes du sol, les microbes bénéfiques, en particulier pour la fixation de l'azote atmosphérique. Alors, je dois souligner combien, pour moi, ça a été une expérience intéressante, enrichissante, en 3 temps. Le premier temps, c'était la formation des animateurs. Donc, j'avais préparé une série de diapositives pour introduire l'intérêt des légumineuses. Donc, l'intérêt, d'abord, qu'est-ce que c'est que les légumineuses, d'où elles viennent, et leur intérêt pour la santé, un peu avec d'ailleurs une idée de ce qu'on considère dorénavant comme la santé unique, donc la santé humaine par l'alimentation, mais aussi la santé des sols, parce que finalement les légumineuses stimulent la vie microbienne des sols, en particulier par leur symbiose avec les rhizobias pour la fixation d'azote et puis avec les mycorhizes pour leur nutrition, en particulier phosphatée, et que ceci contribue à la santé des écosystèmes. Et donc cette séance avait été particulièrement intéressante parce que même si, comme à l'instant, j'introduisais des notions scientifiques sur ces légumineuses et les microbes du sol, il y avait une très très bonne réactivité des animateurs qui m'ont posé beaucoup de questions et m'ont dit avoir beaucoup appris de notre échange, qui était une très bonne période d'échange d'une heure et demie, 2 heures, autour de ces diapositives. Alors la deuxième étape de cette coopération, ça a été la réalisation des fiches sur les légumineuses alimentaires à graines, donc les légumineuses alimentaires qui ont été retenues pour la campagne, et qui ont donné lieu ensuite à un petit livre de recettes qui a été donc « Le monde des merveilleuses légumineuses » et cette année « Le monde des tubercules ». Donc, d'une part pour présenter donc, la nature botanique finalement de ces aliments, leur origine, puisque la plupart d'entre eux nous viennent des autres pays de la planète. Si on pense par exemple au niveau de la pomme de terre, elle nous vient des Andes. Le haricot nous vient d'Amérique, des Andes et d'Amérique centrale, et ainsi de suite. 70% des plantes que nous mangeons dans notre alimentation occidentale, en fait, viennent du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, où ils ont été domestiqués pendant le néolithique. Et puis, il y a ce dossier que je trouve tout à fait remarquable et très pratique et d'application pour les familles et les animateurs. Et puis ensuite, il y a eu un moment que j'ai aussi beaucoup apprécié, qui sont les ateliers avec les enfants. Bon, j'ai participé à 3 ateliers avec Artisans du Monde, qui avait préparé une animation pour cela. Et j'ai trouvé très très bien, et en particulier, je me rappelle très bien l'animation qui a eu lieu avec le Conseil municipal des enfants à la mairie, où finalement ils ont été invités à participer à une course au trésor autour des légumineuses, et où les enfants ont vraiment manifesté leur participation, leur intérêt au sujet, et dans lequel le jeu portait bien le sujet. En particulier, par exemple, il y avait des images de fleurs de légumineuses, hein, c'est comme ça que nous, les botanistes, on les reconnaît. Et donc l'invitation à placer ces légumineuses sur la planète, et donc l'intérêt qu'ils avaient, justement, comme je le mentionnais précisément, leur origine, qui sont très généralement des origines du monde tropical ou du monde andin, des cultures amérindiennes ou des cultures du Moyen-Orient. Et puis aussi, une des dimensions de ce jeu qui m'avait plu, c'est qu'on avait prévu des petits pots recyclables avec de la terre, pour qu'ils puissent faire l'apprentissage de planter une graine de légumineuse. Donc j'avais amené des graines de fèves, dont j'avais vérifié 15 jours auparavant leur germination. Et donc ils ont pu faire l'apprentissage de comment on plante une graine dans un petit pot de terre, et comment aussi juger de l'humidité du sol pour que ça germe bien. Donc c'était un apprentissage, et là ils ont tous adhéré très fortement à préparer leur petit pot qu'ils ont pu emmener. Et du coup, comme moi j'avais fait le test précédemment, ils sont chacun repartis aussi avec une plantule de févrole germée 15 jours plus tôt. Et donc avec ces éléments qui vont ramener à la maison et qui devraient soutenir le dialogue avec les parents, et comment finalement cette campagne alimentaire est aussi une façon de sensibiliser les familles et pas seulement les enfants à l'intérêt d'une alimentation saine. Alors, un des grands défis des légumineuses, bien sûr, c'est la substitution aux protéines animales, la substitution à la viande à laquelle on est invité pour la crise climatique, hein, diminuer, ne manger de la viande plus que 2 fois par semaine, et en retour, manger en compensation des légumineuses au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, et puis du poisson. Enfin, se rapprocher de ce qu'on appelle l'alimentation crétoise ou méditerranéenne, où justement la part de la viande animale est réduite, surtout la viande des mammifères. Donc c'était aussi une occasion de sensibiliser à cette campagne à laquelle nous, occidentaux, on est largement invités, à savoir consommer plus de légumineuses et moins de viande. Aussi avec ce rappel, c'est que dans la plupart des populations planétaires, celles des populations qu'on qualifie du Sud, les légumineuses sont leur principale source de protéines. Donc c'est ce contexte global de la campagne alimentaire que je trouve vraiment particulièrement intéressante, d'ouvrir à la diversité dans l'alimentation saine et la diversité aussi de nos cultures alimentaires à l'échelle planétaire et de notre rencontre avec les populations de la planète.
Alors, pour sensibiliser les familles, justement, le jour où le menu est particulier, ce repas particulier, les familles reçoivent la description.
Les familles sont informées de cette campagne alimentaire dès le mois de novembre. Au dos du menu mis à disposition de toutes les familles, des enfants qui vont à la restauration scolaire, qui sont nourris dans les cantines scolaires, au dos de ce menu, il y a une explication sur ce que c'est que cette campagne, qui elle mobilise et pourquoi. Donc c'est déjà au mois de novembre. Et plus tard, ensuite, évidemment, les enfants communiquent avec leur famille sur ce qu'ils ont mangé. Et donc, à propos du repas spécial aussi, ils voient bien sur le menu qu'il y a un repas spécial alimentaire, et ils font le rapport avec ce qu'on leur a dit au début, qu'on avait travaillé avec les enfants sur ces questions-là tout au long de l'année. C'est un temps qui est dans le deuxième semestre de l'année qui dure avec les enfants. Et donc, les parents sont associés, évidemment, par le biais des enfants. Et le conseil municipal des enfants aussi est sollicité pour écouter les délégués parmi eux qui ont participé à cet atelier dont a parlé Jean-Jacques. Ce n'est pas tous les enfants du conseil municipal qui participent à cet atelier, c'est des délégués qui y vont et qui restituent lors de l'Assemblée générale du conseil municipal des enfants qui a eu lieu au mois de juin, le 22 juin, qui restitue le travail qu'ils ont fait en expliquant qu'est-ce que c'est que cette campagne alimentaire, ce travail qui a été fait. Une année, c'est sur les tubercules, une autre année sur les légumineuses. Chaque année, c'est différent. Mais le travail qu'a expliqué Jean-Jacques a été fait en atelier sur les légumineuses. Il est reproduit sur d'autres... On peut le faire avec d'autres produits alimentaires. Donc cette année, c'était les tubercules.
Tubercules, bien sûr.
Et j'insiste pour dire que c'est vraiment un travail très collectif avec l'apport de gens différents. On a eu aussi, par exemple, l'apport d'un service civique qui travaillait à Artisans du Monde, qui est venu nous aider à mettre en page le livret pédagogique qu'on a distribué aux animateurs qui étaient compétents dans ce domaine-là. Donc chacun amène sa compétence pour faire ce travail éducatif auprès des enfants.
Eh bien, nous allons écouter un peu de musique. Donc, il s'agit d'une ronde pour les enfants du monde. C'est une chorale qui s'appelle « À tout cœur, cœur d'enfant » et qui a été enregistrée à Montpellier. Chant pour les droits des enfants. Je vois que c'est très varié, les sujets qui ont été traités jusqu'à maintenant, la banane, le grain de riz, grain de vie, palmier aux multiples usages, l'orange, un fruit en or, le tour du monde des céréales, pêche qui peut, épicé tout, miel qui peut, merveilleuses légumineuses, nous en avons déjà parlé, et cette année c'était patati patata, tubercules et racines comestibles. Alors, de cette expérience, Jean-Jacques, vous avez encore retiré quelque chose?
J'en retire effectivement une perspective qui m'anime. Comme vous l'avez remarqué, les légumineuses, comme source de protéines végétales et alternatives aux protéines animales, se trouvent au cœur des problématiques actuelles de la dérégulation climatique, mais aussi des menaces sur la faim. La fin de l'alimentation, le manque d'aliments pour une partie des populations planétaires. Et je pense donc qu'on pourrait utiliser donc cette course au trésor et la démarche qu'on a eue avec les ateliers de la campagne alimentaire auprès des écoles qui souhaiteraient consacrer un après-midi ou un temps d'animation sur la place que pourraient prendre les légumineuses dans l'alimentation des enfants et l'alimentation des familles. Donc là, si certains interlocuteurs sont intéressés par mobiliser leur école sur le sujet, à ce moment-là, on peut en parler ensemble et via le CDE nous contacter au CDTM pour envisager un atelier comme nous l'avions fait avec le CME à la mairie.
Oui, bien sûr. Vous avez eu aussi une autre envie, c'est de proposer à certaines classes de faire des jardins.
Alors oui, tout à fait. Ça serait très intéressant. Donc les légumineuses donc, peuvent être produites en maraîchage, que ce soit légumes verts comme le haricot vert ou légumes grains comme des grains de pois chiches. Et du coup, ça serait tout à fait possible, en tant qu'agronome, d'expliquer comment utiliser les légumineuses dans un jardin des écoles. C'est en particulier, par exemple, à Cuba, une démarche très générale que dans chaque classe, il y a un jardin. Et bon, les populations d'Amérique centrale et d'Amérique latine sont fondamentalement des mangeurs de haricots, haricots noirs, haricots rouges. Et du coup, dans les jardins scolaires de ces écoles à Cuba, ils sont systématiquement semés des haricots avec d'autres, bien sûr, au milieu d'autres légumes. Et c'est aussi un apprentissage de la culture associée entre légumineuses et autres plantes qui s'inscrit dans ce qu'on appelle dorénavant la transition agroécologique en agriculture ou encore l'agroécologie, à savoir associer les plantes et diversifier les plantes que l'on produit et que l'on mange.
Voilà, c'est donc une proposition qui est faite. Il faut dire aussi que ces dossiers pédagogiques qui ont été élaborés tout au long des années sont à la disposition des enseignants. Alors, je voudrais, Daniel, que vous rappeliez l'ouverture du centre de documentation Tiers-Monde.
Pour tous les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission, la campagne alimentaire, évidemment, les propositions de Jean-Jacques sur le prolonger un travail de sensibilisation qui a été fait avec les écoles, sur les dossiers pédagogiques, sur les documents que nous avons, vous pouvez venir au CDTM qui est au 27 boulevard Louis Blanc, entre la station de tram Corum et Louis Blanc, tous les après-midi du lundi au jeudi de 15h à 18h30. Et le vendredi, ce rendez-vous, vous trouverez notre contact sur Internet, Rétimo, au Centre de documentation Tiers-Monde, Montpellier.
Oui, il faut dire qu'il y a une base de données très riche qui peut être utilisée aussi par Internet.
Oui, il y a une base de données, des documents que nous possédons, nous, mais qui sont aussi à votre disposition dans le réseau Rétimo. Sur place, vous trouverez un accueil pour vous diriger dans votre recherche. On peut consulter toute la documentation sur place, mais aussi en emprunter. On a des vidéos et des expositions. On a une riche documentation sur tous ces thèmes concernant l'alimentation et la solidarité internationale, car nous sommes un centre de ressources orienté vers les questions nord-sud, la solidarité internationale, les questions politiques alimentaires, mais pas seulement du nord et du sud, en relation avec le nord et le sud.
Alors le centre de documentation Tiers-Monde prépare en général tous les mois un café actualité. Avec le Covid-19, évidemment, cette activité a été interrompue. Nous espérons pouvoir la reprendre à la rentrée.
Oui, nous espérons que le reprendre. Vous pouvez vous tenir informé. C'est annoncé en général dans la Gazette de Montpellier, mais en vous inscrivant sur une liste de diffusion pour recevoir les dates et heures et sujets de nos activités, notamment du café actualité mensuel.
Alors là, bon, le centre de documentation Tiers-Monde se trouve 27 boulevard Louis Blanc. Il est membre, bien sûr, de la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité internationale qui anime cette émission. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que je suis accompagnée de Philippe Lost et de Marie-Claude Kézac qui anime également cette émission toutes les semaines. Alors, nous allons passer aux annonces. Et Jean-Jacques Trevon veut justement nous en faire une.
Oui, alors du coup, j'ai évoqué l'approche d'agroécologie et dans le fond aussi d'alimentation durable. Alors, il se trouve que la métropole a dorénavant une animation des quatre saisons de l'agroécologie de l'alimentation durable. Et donc, vous informez que le 3 juillet, ce dimanche 3 juillet, il y aura donc l'occasion de se rencontrer au parc Lavalette, avec des marchands, des producteurs, vendeurs, et puis différentes animations dans le cadre de ces quatre saisons. Donc le 3 juillet à La Valette, et puis dans les deux semaines qui encadrent ce dimanche, des rencontres possibles dans des fermes et avec des producteurs et dans ces initiatives alternatives d'amélioration de notre alimentation. et de notre agriculture.
Merci Jean-Jacques. Moi-même, j'ai à vous annoncer le 28 juin, donc demain, à la Paillade, au Grand Mail, une journée pour changer de regard sur les migrations, qui est organisée avec Kawa TV et SOS Méditerranée. Alors, exposition, projection, débat, danse, musique, toute la journée. Et même, ça se termine par une fête qui est assez... qui est après 20 heures. Donc, voyez ce programme, Montpellier, 28 juin, à la Paillade, au Grand Mail, une journée pour changer de regard sur les migrations. Et puis, je vous rappelle aussi qu'a lieu le 2 juillet, donc samedi 2 juillet, à la Carmagnole, 10 rue Haguenau, le colloque « Armes policières mutilantes, analyse et combat ». Vous pourrez suivre ce colloque soit en présentiel à la Carmagnole, sans vous inscrire à l'avance, ou bien vous pouvez le suivre en direct, ce sera diffusé par la Carmagnole. Alors, chers auditeurs, passez un bon été. C'est la dernière émission pour 2022 avant la rentrée. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, le lendemain de la foire Antigone des associations. Passez un bon été.